Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1976, Arthur Cohn et Jacques Perrin produisent La Victoire en chantant, le premier film du réalisateur français Jean-Jacques Haneau, sur un scénario que ce dernier a écrit avec Georges Conchon. Il s'agit d'une comédie satirique et antimilitariste qui traite de la Grande Guerre et du colonialisme. La musique, composée par Pierre Bachelet, contribue en permanence à maintenir une atmosphère drôlatique et un climat d'ironie toujours mordante. Proposée tout d'abord à l'État camerounais, cette œuvre a finalement été tournée entièrement en Côte d'Ivoire. Elle a reçu aux États-Unis l'Oscar du meilleur film étranger en 1977. Mais elle a été très mal accueillie en France et plus généralement dans les anciennes puissances coloniales. Elle a fait ensuite l'objet d'une seconde sortie en France, sous un autre titre, Noirs et blancs en couleur, traduction littérale du titre anglais Black and White in Colors. Le titre, La Victoire en chantant, fait référence au chant du départ que l'on entend pendant le générique. À l'origine, en 1794, c'était un chant révolutionnaire, écrit par Marie-Joseph Chénier et dont Nicolas Méhul composa la musique. Cet hymne à la liberté, qui visait alors à stigmatiser les despotismes, fut exécuté pour la première fois après la bataille de Fleurus pour célébrer la victoire des révolutionnaires français sur la coalition ennemie. Puis, le comité de salut public exigea qu'il fût exécuté le 14 juillet 1794 pour marquer l'anniversaire de la prise de la Bastille. Ensuite, ce chant a survécu à la Révolution et au Premier Empire, au point de devenir, durant tout le XIXe siècle, le symbole français d'une France soucieuse de défendre la patrie. Aussi n'est-il pas surprenant que pendant la Première Guerre mondiale, l'armée française y ait eu souvent recours pour exalter les soldats partant au front, lors de la mobilisation prétendument la fleur au fusil. L'action se situe en Afrique équatoriale française, au cours de l'année 1915. Un de ses postes militaires, Fort Coulet, vit en bonne intelligence avec un poste militaire allemand situé à proximité. Les deux groupes de colons qui ont sympathisé depuis longtemps disposent de leurs indigènes comme ils l'entendent et vivent une vie facile de parasites désœuvrés. Ces Français et ces Allemands s'échangent des services, commercent, discutent et plaisantent. Autant dire qu'au point frontière, l'ambiance est très conviviale, détendue et tout à fait amicale. Le 6 janvier 1915, le jeune géographe et botaniste Hubert Fresnoy, interprété par Jacques Spiesser, écrit à Lucien R, le célèbre bibliothécaire de l'école normale de la rue d'Ulm, un intellectuel socialiste et pacifiste. Fresnoy lui dit son ennui et sa profonde solitude. Il se plaint de l'absence de visite et plus encore du manque de nouvelles en provenance de Paris. Que nous prépare Debussy? Que devient Peggy? Où en sont nos amis socialistes? Dans cette lettre, il déconstruit toutes les prénotions qui s'attachent à l'image du colonisé. Là où j'attendais de féroces sauvages bardés de sagaies, je ne vois que de paisibles ruraux dont l'existence pastorale n'est pas sans rappeler celle de nos paysans de l'Indre-et-Loire ou de la Creuse. Quant à l'infériorité de la race noire, vue de près, elle tient moins à la forme du crâne ou à la composition du sang qu'au sentiment que nous avons de notre propre supériorité. Surtout, il porte un regard très critique sur ses compatriotes, des soudards, profiteurs et pleutres toujours plus ou moins avinés dont il doit subir la présence vulgaire et les insanités incessantes. Jusqu'au jour où il reçoit enfin de Paris un colis rempli de livres et de journaux. Lui, le socialiste, apprend ainsi avec consternation que Jaurès a été assassiné. Qui ça? S'exclament en chœur ses compatriotes. Mais surtout, ils découvrent tous, avec 5 mois de retard, que la guerre a éclaté en Europe, depuis le mois d'août 1914. Mais avec qui? Mais avec l'Allemagne. Ah bon, tiens, j'aurais cru que c'était avec les Anglais, moi, répond le commerçant Paul Rechampeau, joué par le comédien français Jacques Dufilho. L'atmosphère s'échauffe immédiatement et la scène devient très vite délirante grâce à des dialogues particulièrement savoureux. Le commerçant, Monsieur Caprice, interprété par Maurice Barrier, se trouve vite à bout d'arguments. Il montre alors le poste militaire des Allemands à leur frontière. « Mais l'Allemagne, elle est là! Ils sont là, les Boches !» À l'exception d'Hubert Fresnoy et du sergent Bosselet, interprété par Jean Carmet, tous se découvrent tout à coup patriotes et va-t-en-guerre, y compris les deux pères missionnaires qui fabriquent du chrétien, pour reprendre l'expression des abusés de Bosselet. Ils déclarent aussitôt la patrie en danger et décident d'attaquer au plus vite le poste allemand. Hubert Fresnoy s'insurge contre une telle palinodie et les met sévèrement en garde. « Vous ne pouvez pas ! De quoi auriez-vous l'air ?» Et pour ce qui est de la guerre, les Allemands ne sont pas nés de la dernière pluie. Caprice et Rechampeau lui rétorquent immédiatement. « Mais on aurait l'air de Français patriotes ! De patriotes français ! Un point c'est tout !» Ils pensent mener rondement leur affaire, une expédition militaire qui deviendrait victorieuse à peu de frais face aux Allemands, d'autant plus que, ben les nôtres, ils sont 3, et en plus de ça, ils sont cons, alors... Hubert Fresnoy a beau leur dire « Ce que je vois, c'est que pour ramener 3 Allemands, 3, qui ne vous ont rien fait, vous, de prétendus chrétiens, vous acceptez d'exposer des dizaines d'hommes au massacre. Ben, quels hommes? Il n'y a que nous et des nègres. Et au pire, ce seraient les tirailleurs, rétorque Rechampeau. Cependant, rien n'y fait, tant ils sont pressés d'en découdre avec leurs amis allemands d'hier, qu'ils souhaitent désormais écraser. Or, le seul personnage à incarner l'institution militaire, le sergent Auguste Bosselet, est un homme mélancolique qui ne croit plus à rien et noie son ennui dans l'alcool et le sexe. Certes, il n'est guère disposé à mener bataille, mais il se trouve finalement contraint, bien malgré lui, de déclarer la mobilisation générale, dans une scène désopilante où culmine la bouffonnerie la plus totale. Proclamant que la République a besoin d'eux, ils font appel à tous les indigènes en bonne santé de sexe masculin qui voudraient se porter volontaires, alors que retentit la Marseillaise et que jouent les tambours. En échange de bimbeloterie, les Noirs sont de fait enrôlés de force car ils ne comprennent pas le français. Mais qu'est-ce que ça peut foutre s'ils n'ont pas compris? Ils comprendront, de toute façon ils sont d'accord. Lâche, cynique, le sergent Bosselet. À travers lui, c'est naturellement toute l'institution militaire qui est déconsidérée. Le 22 janvier 1915, ces pieds nickelés s'improvisent donc maîtres de guerre. Ces rois de l'embrouille comme de la combine, qui se montrent racistes comme ils respirent, imposent finalement à Bosselet, le sergent, le principe d'une attaque immédiate, sans aucune préparation. Très excité, il déclare grandiloquent à Fresnoy « Toi, tu fais dans la géographie, mais nous, excuse, on fait l'histoire !» Ils franchissent un petit ruisseau plus ou moins à sec, qui est pour ainsi dire comme qui dirait le Rhin, précise l'un d'eux. Ils envoient ensuite au son de la fanfare et des trompettes leurs troupes indigènes à l'assaut du poste allemand, tandis qu'ils décident de s'installer à l'arrière et à l'ombre pour un pique-nique plantureux et bien arrosé. Position avantageuse qui leur permettra de fuir au premier coup de feu. La riposte des Allemands ne se fait pas attendre. Faisant usage de leurs mitrailleuses, ces derniers déclenchent aussitôt une fusillade terrible. L'aventure improvisée se termine donc en débandade, avec un mort, le Clairon Noir, et de nombreux blessés parmi les indigènes. De retour à Fort Coulet, ils organisent la résistance contre les Allemands, avec pour seul mot d'ordre « S'ils viennent, on se rend pas, mais faut pas qu'ils viennent ». Sous la houlette d'Hubert Fresnoy, qui réussira à les canaliser, ils joueront à la guerre, faisant creuser des tranchées comme en Europe et capturer des noirs, des savanes, pour les enrôler manu militari, afin de les entraîner au maniement des armes et à la parade militaire. Cette bouffonnerie durera encore 3 ans, jusqu'à ce qu'ils apprennent que la guerre est finie et que le territoire allemand est désormais attribué au Royaume-Uni. La paix rétablie, les ressortissants des 3 pays fraterniseront autour d'une bonne bouteille. Et Rochampeau résumera la nouvelle donne internationale ainsi. Par le fait, il n'y a qu'une chose qui change. C'est que les nègres, qui étaient allemands, ils tournent anglais. Eh ben, je vais te dire une chose. Ça leur fera les pieds. Dans le registre efficace de la dérision, cette œuvre de Jean-Jacques Hano, La victoire en chantant, constitue une virulente charge pacifiste et témoigne d'un antimilitarisme dévastateur. Mais elle représente également une dénonciation caustique du colonialisme et de toutes ses formes de prédation, de falsification et d'instrumentalisation. En effet, avant de les envoyer au front, ces Français du Fort Coulet, emblématiques de la puissance coloniale, apprenaient à leurs combattants noirs le chant des guerriers, le refrain du chant du départ. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. Alors que ces indigènes n'avaient même pas droit au statut de citoyen français.